Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice, qu'on retrouve par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et toute cette semaine, Brice, vous détaillez les critiques menées actuellement dans les pays anglo-saxons contre la méritocratie. Et l'un des premiers intellectuels à avoir sonné la charge a été le philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah.
Oui, dans une étude parue en octobre 2018 dans la New York Review of Books intitulée « The Red Baron » et qui était consacrée à Michael Young. C'est Young qui a créé le néologisme « méritocratie ». Cet éminent sociologue a été l'une des têtes du parti travailliste d'après-guerre. Il est carrément, figurez-vous, l'auteur du manifeste « Regardons l'avenir en face » qui a permis à Clement Attlee de battre Winston Churchill aux élections de 1945. Ce programme comportait l'instauration du système britannique d'assurance santé universelle et l'enseignement gratuit et obligatoire jusqu'à 15 ans. Plus tard, en 1954, Michael Young a créé, figurez-vous, la première association britannique de défense des consommateurs. Et en 1969, l'Open University qui a permis à 2 millions de Britanniques issus de toutes les classes de la société d'étudier. Young, grande figure de la gauche britannique, était un visionnaire. Et il était décidé à briser la hiérarchie sociale figée qui caractérisait l'Angleterre d'avant-guerre, une véritable société de caste. Il voulait en renouveler les élites en confiant les rênes du pays à des compétences issues de toutes les classes sociales, une forme de révolution tranquille. Pourtant, observe Appiah, Young, le visionnaire, pressentait que ces réformes allaient échouer. Et sur le modèle du 1984 de George Orwell, il a publié en 1958, un roman absolument prophétique, titré « The Rise of Meritocracy ». Le narrateur est un historien qui écrit en 2033. Il raconte comment la Grande-Bretagne est redevenue une société de caste, plus impitoyable encore que dans le passé. La nouvelle classe dirigeante a imposé la formule « QI, plus effort, égale mérite ». Ce n'était pas une aristocratie de naissance, ni une plutocratie des puissances financières, y lit-on, non, c'était une vraie méritocratie du talent. Or, dans ce livre, l'ascension de la méritocratie, donc l'esprit de révolte contre l'injustice de la classe ouvrière qui avait disparu, renaît vers la fin. Les cancres au lycée, qu'on a persuadés durant des décennies qu'ils méritaient leur sort minable, finissent par se soulever contre cette nouvelle classe dirigeante du mérite. Elle est devenue en effet encore plus arrogante que les anciennes aristocraties puisqu'elle prétend que son pouvoir et ses privilèges sont absolument mérités. La carapace du mérite, écrit Young, avait inoculé les vainqueurs contre la honte et les reproches. Alors voilà, nous ne sommes pas en 2033, mais c'est pourtant notre problème.
Et Brice, Kwame Anthony Appiah montre l'actualité dans l'Amérique profonde, celle de Trump, de la prophétie de Young.
Et oui, pour la première fois, figurez-vous, depuis longtemps aux États-Unis, il y a davantage de personnes pour s'identifier comme appartenant à la classe ouvrière, au col bleu, qu'à la classe moyenne. Je cite, « L'un des moteurs du populisme qui a propulsé Donald Trump au pouvoir, dit Appiah, c'est le ressentiment envers une classe définie par son éducation et ses valeurs. La population cosmopolite, bardée de diplômes, qui domine les médias, la culture publique et les emplois supérieurs aux États-Unis. Les populistes, eux, pensent que les élites libérales méprisent les Américains ordinaires, ignorent leurs inquiétudes et utilisent leur pouvoir pour leur propre avantage. Dans son livre qui vient de paraître en français « La tête, la main et le cœur », le Britannique David Goodhart lui fait écho, je cite, « Une relation symbiotique est née entre les valeurs des gens de n'importe où, libéraux et modernes, écrit-il, et celle de la vaste classe émergente des travailleurs cognitifs, qui, en règle générale, ont tendance à valoriser le succès individuel, l'accomplissement personnel, l'innovation, l'autonomie et la mobilité, et que les changements sociaux n'effraient pas. Bien sûr, l'ouverture économique est souvent la priorité des plus diplômés du centre droit et l'ouverture sociale et culturelle, celle des plus instruits du centre-gauche, mais les deux ont convergé ces dernières années dans un double libéralisme économique, social et culturel. Et c'est précisément ce que l'école bleue rejette, comme l'avait prévu Michael Young dans « The Rise of Meritocracy ». Car la politique est désormais trustée presque exclusivement par d'anciens élèves des institutions universitaires les plus prestigieuses. Et la France, étant cité par la plupart des critiques de la méritocratie comme l'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène. Une élite minuscule, 80 élèves par promotion de l'ENA, trustent tous les postes de responsabilité les plus éminents du pays. Comme l'écrivent deux universitaires allemands, Mark Bovens et Hans-Schritt Wille, dans Diplomatie, démocratie, l'élitisme éducatif a engendré une nouvelle forme d'oligarchie. Non seulement ces élites du savoir ne représentent pas la société dans sa diversité, mais elles donnent le sentiment de mener des politiques favorables aux intérêts particuliers de leur étroit milieu, plutôt qu'à celui des gens ordinaires, ce qui fragilise la démocratie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.